Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bienvenue dans l'émission de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc, on a déjà traité le sujet. Ce mois-ci, nous avons choisi comme sujet l'avortement, ou plutôt le droit à l'avortement, et deux films documentaires qui abordent ce sujet de manière très différente, mais qui se répondent aussi. Et nous sommes quatre cinéastes autour de la table pour en discuter ensemble pendant une heure et demie. Caroline Kim-Morange, pour son film Socoristas, militante de l'avortement. Bonjour Caroline.
Bonjour Anne.
Alors, c'est particulier aujourd'hui, vous allez peut-être reconnaître la voix de Caroline, qui depuis presque 3 ans maintenant, fait partie de l'équipe d'animation d'ad hoc de cette émission radio. Et c'est la première fois que nous la recevons en tant que réalisatrice, invitée donc à parler de son film « Socoristas, militante de l'avortement ».
Merci de l'invitation.
Mais voilà, tu seras peut-être bien un petit peu sollicitée. Enfin, de toute façon, comme d'habitude, notre émission est une discussion libre et ensemble. Nous avons aussi Halima Arouali et François Bernard. Bonjour. Pour leur film « Laissez-les avorter tranquille » qu'ils, elles, ont co-réalisé il y a 10 ans. Bonjour Halima, bonjour François.
Bonjour Anne.
Bonjour Anne.
Voilà, et moi-même, Anne Galland, qui vais animer cette émission aujourd'hui. Alors, ce thème de l'avortement. Alors que le droit à l'avortement ne cesse de revenir au devant de la scène politique, géopolitique, remis en question aux États-Unis, en Pologne, en même temps que d'autres pays l'inscrivent dans la charte des droits fondamentaux de leur constitution, comment des films documentaires, au-delà du sujet, nous donnent à voir et à entendre ce que c'est que se battre pour ce droit à l'avortement. Et je citerai dès l'intro Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, qui m'a énormément touchée quand je l'ai entendue dire que le droit à l'avortement est le plus politique du droit des femmes. C'est une des conditions de l'égalité. Les autres droits, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance des femmes, sont dépendants de ce droit-là à disposer de son corps et de soi-même. C'est une condition de l'émancipation. Voilà, voilà ce qui va nous animer aujourd'hui. C'est effectivement d'aborder, à travers le cinéma documentaire, comment des cinéastes s'engagent et donnent à entendre et à voir des femmes en lutte qui se battent, évidemment, pour le droit à l'avortement, mais bien au-delà, pour le droit à disposer de leur corps et à leur liberté. Je vais commencer par présenter le film de Caroline, donc Socoristas, militante de l'avortement. Un film qu'elle a terminé l'an dernier, donc qui date de 2022, qui est sorti en 2022. Et qu'elle a tourné pendant plusieurs années auparavant en Argentine. Je vous lis le résumé qu'elle en a fait parce que ben, je trouve qu'il est très bien. Et donc, je ne vois pas pourquoi moi j'aurais écrit autre chose. 2018-2020, alors que l'Argentine est secouée par un débat historique sur la légalisation de l'avortement, nous suivons les Socoristas dans leur combat. Malgré les interdits, ces militantes aident par téléphone d'autres femmes à avorter. Elles se font alors discrètes et tendres. Mais lorsqu'elles manifestent, elles sont flamboyantes et joyeuses, provocantes et révoltées, désireuses de sortir l'avortement de la clandestinité et de la honte. Entre ombre et lumière, portées par le collectif, elles s'engagent pour émanciper les femmes. C'est une lutte ancrée dans la réalité argentine, mais c'est aussi un combat mondial, atemporel, pour la liberté du corps et l'autonomie. Pour vous donner une petite idée, à vous, auditrices et auditeurs, de la tonalité de ce film documentaire, on va vous en faire écouter les quelques premières minutes, l'entrée que nous propose Caroline dans son film.
En Argentine, la lutte pour la légalisation de l'avortement a été longue difficile et flamboyante. J'ai voulu vivre de l'intérieur ce moment historique de libération des femmes. En 2018, je suis allée à la rencontre de celles qui menaient cette révolution et j'ai découvert les socoristas alors qu'elles se battaient encore entre ombre et lumière.
Clandestina, porque decidimos clandestinas sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, clandestinas, porque abortamos y hacemos nuestra propia ley, clandestinas, clandestinas en incesante rebeldía clandestina, porque decidimos y lo decimos y no nos callamos, clandestinas, porque no pedimos permiso, clandestinas, porque clandestinas hacemos lo que se nos canta el culo, clandestinas, porque no acatamos las normas del patriarcado, clandestinas.
Clandestinas, porque seguimos y seguiremos abortando en manada y acuerpadas.
Clandestinas, tejiendo desobediencias.
Clandestinas, porque decidimos y lo decimos, y no nos callamos.
Clandestinas, porque no pedimos permiso, clandestinas.
Clandestinas, porque clandestinas, desoyendo las leyes restrictivas y criminalizadoras.
Nous revenons en studio de Radio Libertaire. Dans l'émission d'Ad Hoc, on a déjà traité le sujet. On vient d'entendre le début du film de Caroline Kim Morange, Socoristas, militante de l'avortement. Alors évidemment, j'aurais peut-être dû vous en dire un petit peu plus avant, mais c'était la façon d'en rentrer dans ce que j'appelle l'atmosphère de ce film. Comme Caroline est là, c'est à elle que je vais demander de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit à l'image à ce moment-là.
Alors, toute la séquence où on entend les filles dire « clandestinas », donc qui veut dire « clandestine », logique, on les voit en fait faire une action artiviste, c'est-à-dire une action activiste artistique. Elles forment avec de la glaise les lettres « clandestinas » et elles mettent de la cire de bois dedans, puis elles enflamment la cire de bois. Donc c'est une action assez jolie et assez symbolique. Et en fait, le texte qu'elles déclament disent que toute cette clandestinité, en fait, c'est la clandestinité de l'avortement, c'est pas la clandestinité des socoristas, puisqu'elles elles revendiquent haut et fort de ne pas être clandestines, justement, d'être engagées dans l'information sur l'avortement. Et donc, voilà, elles disent on ne retournera pas à cette clandestinité imposée par la loi. On fait ce qu'on veut, parce qu'on désobéit à la loi et voilà, c'est notre décision.
Merci Caroline. Et donc, avant de présenter aussi l'autre film pour qu'on puisse vraiment discuter ensemble, je vais quand même te demander de nous situer un peu ce film dans ton parcours de cinéaste. Qu'est-ce qui t'amène en Argentine? Comment tu rencontres ces socoristas et comment tu t'embarques dans la réalisation d'un film documentaire?
Ok, donc en fait, ce film, je le réalise juste après avoir fait la formation réalisation des ateliers Varan. Donc avec tous ces principes que j'ai découverts pendant plusieurs mois de cinéma direct. Donc c'est vraiment avec ce bagage-là que j'arrive. Je suis en expatriation avec ma famille et je me dis, bon voilà, là c'est le moment où où j'arrête toutes mes activités d'avant parce que je suis en expatriation et je me lance à fond dans un film. Donc je pars un peu à la recherche de sujets, de voilà, l'Argentine étant un pays fantastique et plein de choses qui, pour quelqu'un qui s'y installe venant de France, c'est d'une richesse évidemment extrême. Et arrive ce débat sur la légalisation de l'avortement. Il était annoncé depuis plusieurs mois, et là, voilà, il commence. Moi, peu de temps après que je m'installe, en fait, ce qui est bien, parce que ça m'a laissé un peu le temps de m'installer, justement. Il commence en mars ou en avril, quelque chose comme ça, 2018. Et donc, en mars 2018, je vais à la grande manifestation. Là-bas, la manifestation du 8 mars est très importante en Argentine. Il y a vraiment beaucoup de monde, etc. Et là, je vois toute cette mobilisation autour de l'avortement. Et je me dis, voilà, je vais me, c'est quand même... en fait, j'avais vraiment envie de me retrouver au cœur de cette histoire qui était en train de se faire, avec ce sentiment que, en France, c'était dans les années 70. Il y avait eu tout ce mouvement auquel j'étais reconnaissante, et je voulais aussi voir comment ça se passait, en fait, cette lutte. Évidemment, celui de la France, je pouvais me documenter, mais là, j'avais vraiment envie de le voir au cœur. Et du coup, j'essaye de contacter des associations qui, généralement, ne me répondent pas. Et les Socorristas, elles, leur principe, c'est de diffuser un numéro de téléphone et de proposer aux femmes qui en ont besoin, qui veulent avorter, de les appeler. Et donc, je les appelle pour mon film. Hein. Et donc, du coup, elles répondent, contrairement aux autres. Et donc, je peux leur expliquer mon projet. Elles me reçoivent. Et je rencontre deux des filles qui sont dans le film, qui m'expliquent ce qu'elles font. Et moi, je tombe un peu dénue, avec plein de naïveté. Finalement, l'avortement, j'y connaissais pas grand-chose. L'idée que des femmes non médecins puissent accompagner dans l'avortement, enfin, ça me paraissait un petit peu fou. J'avais tous les clichés qu'on pouvait avoir quand on n'y connaît rien, en fait. Pendant cette rencontre, je leur explique une idée un peu farfelue que j'avais sur de films. Et puis, il y en a une, en fait, au fur et à mesure, elle me tend un film. Un DVD avec un film qui était « Regarde, elle a les yeux grands ouverts » de Yann Lemasson. Elle me dit « Regarde ce film, et puis moi j'aimerais bien qu'on ait le même sur nous. »
C'est une commande.
Voilà, un peu une commande, un peu inopinée, parce que c'était moi qui venais vers eux. Mais bon, du coup, j'ai regardé le film, j'ai dit « C'est génial, mais je ne suis pas sûre d'être au niveau, mais moi je vais faire ce que je peux. » Ouais, j'ai trouvé le film absolument fabuleux, et effectivement, évidemment, c'est une source d'inspiration, même si c'est pas du tout le même film que j'ai fait, mais c'est vrai que les mouvements se ressemblent, en fait. Le MLAC en France et ce que font les Socorristas, c'est la même démarche, c'est la même idée, à part que dans le film de Yann Lemasson, il y a évidemment tout le volet sur la naissance qu'il n'y a pas dans le mien, parce que c'est pas des communautés comme ça pouvait exister la communauté d'Aix. Et donc voilà, je vais à leur réunion, et puis petit à petit je me dis, mais en fait le film, il faut que je l'efface sur elles. Voilà comment ça a démarré, et en fait très vite, très simplement, elles m'ont accepté dans le groupe, et donc j'allais à toutes leurs réunions, j'ai fait toutes les marches, j'ai appris tous les chants. voilà comment ça s'est déroulé.
Donc voilà pour l'introduction. Évidemment, on va discuter après des manières de faire, des formes de vos deux films qui, effectivement, sont très différentes. Mais il y a dans les deux cette même, sensibilité, cette même attirance pour cette histoire de collectifs qui se battent et collectifs qui sont faits d'individus qui vraiment puisent leur énergie et partagent leur énergie dans un groupe. Donc, on va passer au film d'Halima Arwali et François Bernard, Laissez-les avorter tranquilles. Je vais, de la même façon, en lire le résumé que vous pouvez trouver aussi de votre côté. Donc, c'est un film qui a été tourné, qui est sorti en 2013, donc il y a 10 ans, et qui commence en disant 38 ans après la loi autorisant l'avortement en France, donc aujourd'hui 48 ans après la loi autorisant l'avortement en France. Ce film tente de montrer le travail réalisé au quotidien dans le centre d'orthogénie de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le 94, pour permettre aux femmes d'être accueillies dans les meilleures conditions possibles. Alors, un centre d'orthogénie, c'est un centre qui s'occupe de la régulation des naissances, qui permet...
Qui s'occupe des femmes.
Qui s'occupe des femmes dans cette question de... Mmh. De fertilité et de. Voilà. Et donc, dans lequel on peut trouver l'aide à l'avortement, mais aussi la contraception et aussi un peu plus. Parce que justement, la mentalité, c'est d'accompagner la femme dans sa personne en entier. Et c'est ça qui est passionnant dans cette équipe qu'on va suivre. Alors, travailler dans un centre d'orthogénie n'est pas un métier comme les autres. Héritier du MLAC, donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, dont Caroline vient de faire à quoi Caroline vient de faire allusion aussi. Donc ça, c'était dans les années 70. Les professionnels regroupés dans l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception. Donc, une association qui s'appelle l'ANSIC, et qui est évidemment militante, on peut dire, ou en tout cas engagée, avec une vraie forme de pensée et de manière de travailler. Donc, ces professionnels restent mobilisés pour défendre un droit sans cesse remis en cause, au moment où plus de 150 centres d'interruption de grossesse ont été fermés en 10 ans. Donc ça, c'est l'état des lieux en France. Il y a 10 ans, il y en avait 150 qui avaient fermé. Je pense qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être, mais c'est guère mieux. C'est toujours une question d'actualité. C'est pas que les centres d'interruption de grossesse, c'est dans le secteur de la santé, les services. Enfin voilà, tout est concerné. Et puis, il y a toujours les anti-IVG qui se manifestent, évidemment. Voilà, donc ce film... vous l'avez co-réalisé, mais en deux temps, on peut dire, ou en tout cas, ma première question, elle est pour toi, François. Voilà, je ne sais pas de quelle façon tu veux répondre, mais évidemment, toi, tu es particulièrement engagé dans l'ANSIC, dans ce centre d'orthogénie dans lequel... Tu ne travailles pas, toi, tu n'es pas un de ces professionnels. Toi, tu viens de l'éducation populaire, tu viens de l'économie sociale et solidaire, tu as beaucoup travaillé dans l'audiovisuel, dans ces secteurs, tu as réalisé quelques films. Et là, ma question première, c'est, puisqu'en fait, ta compagne, Laurence, est gynécologue dans ce centre d'orthogénie, évidemment, tu en es proche. Et est-ce que c'est une commande ou est-ce que c'est toi qui proposes de faire un film sur cette équipe ?
Non, c'est pas du tout une commande. C'est, ça correspond à mon désir de faire un film qui témoigne d'un certain nombre de questions sur l'avortement. Parce que, voilà, quand tu l'as présenté, effectivement, ça fait partie de mon histoire depuis une cinquantaine d'années, quoi, en fait. C'est-à-dire que, on évoquait le MLAC tout à l'heure, et puis, moi, je découvre le MLAC, j'ai à peine 20 ans, et c'est une époque où, en plus de la bataille sur l'avortement, il y a aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, puis je pense que ça doit être un peu le cas en Argentine, la question de la construction de collectifs, de femmes, etc., qui sont très très importantes. Et à l'époque, je te le disais l'autre jour au téléphone, le MLAC se réunissait au temple de la ville de banlieue où j'étais, donc dans l'église des protestants, on va dire ça comme ça, je me suis fait virer dès les deux ou trois premières réunions du MLAC, parce qu'il n'était pas question qu'il y ait des hommes. C'est un débat qui revient d'ailleurs à d'autres occasions autres que sur les relations hommes-femmes, mais il y avait ce besoin, effectivement, de parler d'avortement entre femmes, etc. Donc voilà, donc ça, c'est toujours resté un peu une espèce de quelque chose au fond de moi, en disant mais non, c'est complètement idiot, il doit y avoir aussi des hommes dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, avec Lancy, qui a quelques années, on a fait une brochure qui s'appelle L'avortement, une question d'homme aussi, une histoire d'homme aussi. Bon, c'est souvent, voilà, c'est quand même assez lié, même si beaucoup de femmes se retrouvent toutes seules aussi à ce moment-là, quoi. Et puis, il y a aussi, tu évoquais Yann Lemasson tout à l'heure, mais le fait que l'avortement, la lutte pour le droit à l'avortement et le cinéma, c'est toujours très lié. En fait, Histoire d'A, par exemple, qui est un film qui est interdit, raconte une histoire d'avortement, montre des avortements d'une manière très, très militante. Et ce film a aussi une histoire de production, de diffusion militante, parce que très vite, le mouvement a compris qu'il fallait se servir du cinéma pour diffuser les idées, quoi.
Histoire d'A, qui est de Charles Belmont et Marielle Isartel, et qui vient de ressortir.
Une nouvelle copie.
Une nouvelle copie très belle qui circule, donc il ne faut pas hésiter à aller le voir aussi.
Voilà. Et c'était, alors, c'était d'autant plus difficile que ça a été fait en pellicule. Nous, on était en vidéo, mais voilà, la pellicule, ça pose d'autres problèmes de budget, de développement, etc., etc., et de montage.
Et à une époque où l'avortement est interdit, donc c'est encore plus compliqué de faire développer ce film, etc. J'imagine. J'étais pas là.
Donc pour laisser les avorter tranquille, tu pars toi avec une toute petite équipe, un chef-op.
Un chef-op, un ingé son de temps en temps, même si. Je suis très attaché. Moi, j'ai commencé à faire du cinéma à la radio, donc c'est le son, j'ai toujours trouvé ça très, très important. Mais voilà, on est sur des budgets limités. Donc, on ne pouvait pas être une grosse équipe dans le centre d'IVG. Voilà, il ne fallait pas trop encombrer, quoi. On était admis, parce qu'on avait des bonnes entrées pour rentrer. Mais il ne fallait pas trop déranger, de même que d'ailleurs dans d'autres moments de tournage, que ce soit les journées de travail de Lansing, etc., etc. Et puis les avortements, où là, ça a été encore plus compliqué de pouvoir filmer.
Mais toi, Anne, tu as fait certaines des images, si je n'ai pas de bêtises.
En fait, je suis créditée au générique. J'ai effectivement participé un petit peu à ce film, mais j'ai filmé des avortements sous anesthésie locale qui finalement n'ont pas été montés.
Non, qui sont montés, mais qui ne sont pas diffusés au grand public.
Parce
c'est
que
simplement au public médical.
Voilà, voilà. Oui, non, mais ça posait vraiment une question de pudeur, de bien sûr.
Mais surtout, je crois, des questions d'autorisation. Les patients, enfin des personnes. Quoi.
Non, mais les patients étaient d'accord.
Oui,
mais voilà, c'est
oui, elles étaient d'accord. Celles qu'on a filmées,
oui, mais c'est plutôt des questions.
Voilà,
de...
mais c'est pas. En fait, voilà. Et là, j'en arrive à Halima, qui arrive elle au moment du montage. Halima, tu es monteuse, mais tu es aussi réalisatrice, et on a une longue histoire ensemble parce que on a quand même démarré sur ce film. On n'est pas des steaks hachés. La grève chez McDo en 2001-2002, une magnifique histoire conte de fées, voilà, qu'on a menée à deux, moi à l'image, toi au montage, mais en fait on a réalisé, co-réalisé du début à la fin, toutes les deux. Et donc on continue à se voir beaucoup. De ton côté, alors je ne sais plus, en 2013, oui si, tu avais déjà tourné Bartha et ses filles, tu avais déjà réalisé, sur lequel j'ai participé aussi. Moi, j'avais aussi, de mon côté, réalisé d'autres films. Voilà, donc on est très proches, et François, de la même façon, je ne sais plus par quel biais, mais en tout cas...
On est nés au même endroit.
En fait, Halima et François, vous vous connaissez depuis quasiment l'adolescence.
Enfin, on s'est connus, on avait 18-19 ans, à Corbeil. Ouais. En fait, on bossait dans la même usine. Voilà, on s'est connus comme ça. Moi, j'ai découvert... la communauté, il y avait une communauté qui était à Corbeil, où il y avait plein de gens, des jeunes qui faisaient des choses pas toujours légales et pas toujours... Et donc moi ça m'avait beaucoup plu parce que ça me sortait un peu de mon milieu, quoi. Et à l'époque, moi je connaissais rien à l'avortement, j'étais très jeune, hein, je connaissais rien à l'avortement. Le MLAC, je connaissais pas non plus. Et en fait, avec François, on s'est perdu de vue pendant très longtemps. Et on s'est retrouvés dans les années 2000, justement. Et là, on a découvert qu'on avait tous les deux fait des films. Enfin, moi, j'étais monteuse, et puis François était dans l'audiovisuel. Et voilà, on a fait un petit peu un bout de chemin ensemble. Et un jour, il m'a dit, voilà, je viens de tourner des images sur l'Ancic et sur le Kremlin. Est-ce que est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi sur ce film? Je trouvais ça intéressant, surtout que bon, moi, j'étais pas très, j'ai avorté. Comme beaucoup de femmes, je pense. Mais j'étais pas. Je suis pour l'avortement, mais j'étais pas une militante de l'avortement, quoi. Donc ça m'intéressait de découvrir des choses, et en particulier sur des praticiens de l'avortement, parce que ça, c'était intéressant aussi de voir comment on travaille dans un hôpital comme celui de Kremlin. Ce qui est différent du film de Caroline qui suit des militantes, nous, on suit des militants. Mais des militants, des professionnels. Mmh. Alors que là, ce sont des. Elles sont pas. Elles pratiquent l'avortement, mais elles ne sont pas toutes ni médecins, ni infirmières, ni sages-femmes.
Non,
ni...
non, bien sûr, oui, c'est ce que disait Caroline. C'est ça qui est intéressant. Et elles se battent pour le droit.
Voilà,
pour
c'est
le
ça.
Moment, ce n'est encore pas légal en Argentine.
Voilà, et nous, dans le film qu'on a fait avec François, c'est que d'un côté, aujourd'hui, c'est légal, donc voilà, ça se fait à l'hôpital. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens. Dans le film, on voit aussi des femmes, des médecins qui ont pratiqué de manière illégale.
Voilà.
Parce qu'on voit Joëlle Mounry, voit Annie Bureau, on voit
Chantal Birman.
Chantal Birman. Il y a eu un article sur elle il y a pas très longtemps dans Libération.
Oui, parce qu'elle est dans le cinéma aussi. Elle.
Ah, ça je savais pas.
Elle a, il y a un film qui a été fait sur elle. Ouais. Ouais.
Ah oui, sur elle. Ouais. Mais elle fait pas de film.
Mais ouais. elle le diffuse. Elle est partout.
Oui, oui. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là. Bon, les gens qu'on voit dans le film sont la génération qui a suivi. Je pense qu'ils avaient, ils ont fait médecine après la légalisation. Mais voilà, c'est intéressant ce croisement aussi entre les anciens et les jeunes générations. Quoi.
Ouais. Alors, donc, voilà. Pour reprendre par rapport à ce que tu disais, effectivement, les secouristas, moi, dans celles que j'ai rencontrées, il n'y en avait pas une qui était médecin, ni sage-femme, ni rien. C'est-à-dire qu'elles n'avaient rien en contact avec des études ou une pratique de professionnel de la santé. S'il y en a une qui accueillait, peut-être qu'il y en avait une ou deux, ouais, quand même. Je dis peut-être un peu des bêtises, mais globalement, non. Et ce n'était pas du tout un prérequis, en fait. Parce qu'elles, elles faisaient de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles aidaient les femmes à trouver, enfin, elles leur donnaient l'information sur comment prendre des médicaments. C'est tellement différent des années 70. Bon, vous, votre film, il n'est pas dans les années 70, mais ceci dit, il y a des aspirations qui sont faites dans cet hôpital. Là, c'est que par médicaments. L'accompagnement, c'est que des médicaments. Donc, en fait, l'idée, c'est que les femmes peuvent totalement l'autogérer chez elles, et l'accompagnement, il se fait à distance. C'est-à-dire, elle donne de l'information, elle se rencontre, mais après, la femme chez elle prend les médicaments, etc. La socorista qui l'accompagne est par téléphone en lien permanent, c'est-à-dire s'il y a des questions, des inquiétudes, etc., elle peut appeler ou écrire, mais c'est tout. Il y a pas de, c'est pas du tout comme. Et d'ailleurs, une des grandes revendications des socoristas, c'est justement que l'avortement peut se dérouler à la maison. Et que la médicalisation, ça permet à toutes d'y avoir accès. Ça permet à celles qui le veulent de le faire à l'hôpital, parce que tout le monde ne veut pas le faire chez soi. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligé. C'est en tout cas la grande revendication qu'elle porte. Aujourd'hui, toujours.
On aura l'occasion d'en reparler avec l'histoire de la méthode Carman qui arrive et qui effectivement donne cette possibilité. Ce dont parlent certaines femmes dans les filets avortés tranquilles.
Mais la méthode Carman restant la méthode par aspiration.
Par aspiration,
par rapport à au médicament qui change tout.
Par rapport à la façon dont on faisait ça avec des sondes très dangereuses et incertaines. Voilà. Avant de poursuivre sur votre coopération de réalisation sur ce film, on va quand même en écouter un petit extrait sonore, donc. Là, évidemment, c'est en français par rapport au film de Caro, dont tout le long, on entendra des paroles en espagnol, mais en Argentine. Et c'est très beau d'entendre ça à la radio aussi. Mais là, donc, on a choisi un moment où c'est une réunion d'équipe qui se retrouve. Il y a à peu près une dizaine ou un peu plus de personnes, des professionnels, tous différents, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des psychologues, des psychiatres, qui se retrouvent pour échanger autour de leur travail et des patientes qu'elles ont vues. Et je trouve ça absolument vraiment intéressant de rentrer dans votre film par ce biais-là, parce que le ton est donné de qu'est-ce qui se joue dans une histoire d'équipe. Et ensuite, et vous en parlerez un peu après, justement sur la forme du film, qui est beaucoup un film d'entretien individuel et donc de paroles chorales qu'on retrouve, qui se déclinent et qui se répondent, mais qui sont chaque fois des paroles d'une femme ou d'un homme, il y a aussi quelques hommes, des paroles individuelles, mais qui convergent, qui sont pas tout à fait les mêmes, et qui convergent, et c'est ça qui est vraiment intéressant, donc ça c'est au moment du montage, enfin... Vous nous en parlerez. On va écouter le moment où on comprend que toutes ces personnes, il y a beaucoup de moments où elles se retrouvent ensemble pour faire le point ensemble.
D'avoir son dossier, bon, pour parler comme ça déjà, c'est une jeune fille qu'on avait reçue qui était très très...
Elle n'est pas mineure, parce qu'elle n'est pas mineure, elle est
toujours à 18 ans et demi, je
sens ça. Elle
avait reçue qui était très très angoissée par l'idée de faire cette interruption de grossesse, avec des angoisses de mort importantes, parce que dans sa famille, sa mère avait fait beaucoup de fausses couches, et elle avait une sœur qui était morte en accouchant en Afrique, qui est donc déjà, avant la consultation, était déjà très, très mal, on va dire, et qui avait été reçue en fait après trois fois, je crois, par Bérangère au moins.
Oui, c'est-à-dire que ça s'est plutôt passé, que je lui ai demandé comment elle se sentait depuis l'IVG, comment ça s'était passé, et elle m'a dit ça me brûle entre les jambes. Et là, elle faisait allusion à la mycose qui n'était pas soignée, puisqu'elle n'avait pas pris le traitement, manifestement. Et après, effectivement, elle est partie dans une angoisse avec je l'ai encore le bébé, je l'ai encore. Et donc de reprendre avec elle. Si elle savait qu'on l'avait retirée en fait. Et donc elle a beaucoup orienté son discours sur le corps, c'est-à-dire qu'est-ce qui de son corps finalement lui apprenait qu'il y avait plus bébé.
Je pense que le fait d'être passé par une IVG, d'avoir pu en parler avec vous, va l'aider à mentaliser tout cela. Et à partir du moment où elle aura conscience de la manière dont son corps est construit, de son anatomie, elle pourra peut-être s'autoriser à penser qu'elle est quelqu'un et à faire des liens.
Je me souviens de lui avoir dit, mais voilà, vous voyez que vous avez un sexe d'une femme comme une autre femme, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas intégré avant, puisqu'elle avait l'idée que tout était fermé et qu'elle mourrait si on forçait, parce qu'elle n'avait pas d'orifice, en fait. C'est l'idée qu'elle en avait, tout en ayant découvert, comme je l'avais expliqué par des images pornographiques, elle avait vu un sexe de femme ouvert, en fait. Et elle disait, c'est pas possible que moi j'ai ça, c'est pas possible.
J'étais étonnée qu'elle revienne, parce qu'on
l'a pas examinée.
Jean-François, qui lui dit que si elle est ouverte.
On a fait beaucoup d'efforts.
Oui!
C'est
quand même
dérogé à nos règles.
Tu dis pour certaines femmes, c'est
le lieu du crime, quand même.
Qu'est-ce que vous en pensez à cette passion? Le lieu du crime.
C'est un lieu de deuil aussi, surtout.
C'est un mauvais endroit.
Pour elle, ça semble être un lieu de découverte. De très grandes angoisses de mort. Et en même temps de découverte. De découverte que d'abord on s'intéresse à elle, qu'elle a un corps qui est comme celui des autres femmes, et ça lui ouvre des horizons puisqu'elle peut même commencer à parler d'elle. Mais je voudrais juste rappeler quand même que tout ça, ça n'est possible que parce qu'elles viennent ici, que parce que leur corps porte un bébé, qu'elles demandent une IVG, et que c'est une collaboration personnel soignant, médecin, psy. Ça n'est pas que du psy. Ça me semble très très important de le dire. Et assistante sociale. Donc moi j'aime bien souligner le fait que dans cette équipe, il y a un travail de plusieurs professions qui sont alternativement mises au premier plan suivant les cas.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire. Dans l'émission On a déjà traité le sujet. Et on vient d'écouter un extrait du film « Laissez-les avorter tranquille » d'Alima Arouali et François Bernard. On avait commencé à parler un petit peu de la façon dont vous avez co-réalisé. Donc on a cette séquence de réunion d'équipe. Et puis comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ensuite c'est entrecoupé de moments collectifs, mais c'est beaucoup de paroles individuelles. Et donc François, toi, tu as mené des entretiens, tu as vraiment pris le temps de donner rendez-vous, rencontrer. On t'entend de temps en temps poser une question ou réagir, donc tu es présent. Tu es proche, quelquefois c'est peut-être toi qui prends le son, parce que comme tu disais tout à l'heure, petite équipe et pas forcément les moyens.
Oui, ça, ou micro-cravage, voilà. Enfin, tu vois, il n'y a pas forcément un travail sur le son incroyable. Non. Quoi.
Voilà, ça c'est sûr, et c'est vrai que quelquefois c'est un peu difficile ensuite au niveau technique. Et à Lima, donc, tu arrives, toi, à un moment où il y a combien ? Des heures et des heures de...
Non, il n'y a pas tant que ça. Je n'ai pas le souvenir qu'il y avait beaucoup de rush. Hein. Non. On tournait autour de 20, 25 heures.
Ah d'accord, je croyais qu'il y avait beaucoup plus à transcrire, à écouter.
À transcrire, oui, c'est à transcrire. J'ai transcrit beaucoup. Énormément. Oui,
parce que c'est beaucoup de paroles. Ouais.
Sur un film comme ça, c'est quasiment obligatoire. On ne peut pas monter si on n'a pas... On travaille d'abord sur le papier, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça, parce que c'est enfin, je ne sais pas comment toi, tu as travaillé, Caroline, mais pour moi, c'est impossible de monter un film sans commencer par cette phase papier, quoi. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire que les... qu'il y ait une cohérence dans... Parce que quand tu as 25 heures de rush, c'est impossible de se souvenir de tout, qui a dit quoi, à quel moment, comment ça peut se répondre. Et pour avoir cette construction qu'on a dans le film, où c'est vrai qu'il y a des moments donnés, deux personnages à des endroits différents, on a l'impression qu'ils se répondent. Et pour arriver à ça, il faut avoir ce travail sur le papier. Et ça prend beaucoup de temps.
Donc c'est toi qui a écouté tous les dialogues et qui a retranscrit tout ce qui se disait.
T'es un peu enfin moi je fais tout le temps ça quand je monte des films,
moi aussi,
que ce soit les miens ou ceux des autres, je passe toujours par cette phase de. Avec un, on l'a fait trapper sur les steaks hachés.
Oui.
On était deux, donc ça nous avait. Oui. On avait pris, je me rappelle, on avait pris une bobine chacune et on travaillait comme ça. À deux, ça va plus vite quand même. Mais non, t'es obligé, quoi. Ouais. Enfin, tu l'as fait.
Moi, je l'ai fait.
Tout le monde fait ça, quoi.
J'ai fait des progrès énormes en espagnol.
Non, puis en plus, c'est intéressant de faire ça parce que, bon, tu déroches. Ouais. De toute façon, c'est la phase de dérochage. Et ça te permet quand même de rencontrer les personnages de manière plus approfondie. En plus, moi, j'étais pas au tournage parce qu'on a co-réalisé, mais c'est surtout moi, je suis arrivée au montage, donc c'est le temps que j'ai pris aussi pour connaître le film, pour savoir où on devait aller et vers quoi on devait aller, quoi.
Juste sur la méthode, là, justement, c'est pas sans lien avec les histoires collectives de l'avortement, etc. Je veux dire. On n'est pas parti en disant d'ailleurs on va co-réaliser, c'est-à-dire que c'est en construisant qu'on
s'est dit on va co-réaliser. En fait.
C'est en marchant qu'on a décidé ça. Et si tu veux, moi j'avais vu mon implication, tu vois, par exemple, ma fille a participé à l'écriture des rushs, etc. Enfin, tu vois, c'était une entreprise familiale très importante. J'avais besoin de quelqu'un qui ne soit pas dedans, enfin pas complètement dedans, et qui prenne le temps justement d'avoir ce recul. On s'est beaucoup engueulé sur plein de trucs parce que. Mais je te dis, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Ça, c'est toujours comme ça au montage. Mais sauf que là, il y a, sur un film comme celui-là, je pense qu'il y a un affect encore plus important. Tu me diras, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'affect. Mais j'avais besoin, moi, de cette relation, que ce soit un homme, une femme aussi, par rapport à cette question. Hein, parce que, voilà, je suis un homme, je n'avorte pas, je fais que des accompagnements à l'avortement. Et même si, on parlait des films tout à l'heure, mais dans le film Annie Colère, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient... Il y a beaucoup d'hommes étudiants
Annie en médecine. Annie Colère, donc... Un film de fiction
complètement,
qui raconte cette histoire de l'époque du MLAC et qui est sorti en salle l'an dernier. Beaucoup ont pu le voir. Et la réalisatrice, c'est...
Son nom m'échappe, mais en tous les cas, c'est aussi un film qu'on a beaucoup accompagné pour faire des débats après autour du film. Mais pour revenir à la question du montage, c'est vrai que je ne sais pas comment toi tu as tourné sur ton film. Moi, c'était une petite équipe, mais je tiens beaucoup à cette idée de travailler en équipe sur des films, même si les conditions financières sont de plus en plus dures, etc. De même que sur l'avortement, quand je disais tout à l'heure, centre d'orthogénie, c'est un centre où on s'occupe des femmes, parce que c'est l'occasion de plein de choses. Les centres d'orthogénie et les 150 dont on disait à l'époque, on communiquait beaucoup là-dessus, en fait c'est 150 maternités qui sont fermées parce que les avortements se font dans les maternités, ce qui est un peu une aberration monstrueuse, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu viens pour avorter, tu vois, avec des tu te retrouves avec des femmes, quoi, un gros ventre, et qui demandent que quand est-ce qu'elles vont accoucher, que leur bébé va arriver. Le mot bébé, par exemple, qui est prononcé par une psychologue qui le prête. C'est né
Enfin, c'est pas le bon mot.
Ce n'est
c'est
jamais
sûr.
Le mot prononcé ouais.
non,
par non. les avorteurs et les avorteuses.
Non, bien
c'est-à-dire
sûr,
qu'il n'est pas question de bébé.
Mais en fait, elle reprend la parole de la femme.
Absolument.
C'est la femme qui avait cette vision-là d'un bébé dans son ventre.
C'est
mais,
Non, c'est elle qui le dit.
Non, elle le reprend.
Je sais pas. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me rappelle quand j'ai avorté à l'hôpital Saint-Antoine, le rendez-vous, c'était dans une salle d'attente avec des femmes enceintes. Et c'est vrai que t'es mal, quoi. T'es mal. Moi, je culpabilisais pas du tout d'avorter. Mais je trouvais que c'était étrange de faire que les femmes qui viennent... Comme si inconsciemment, dans la société, on veut te faire peser le fait que tu es en train d'avorter et que c'est pas vraiment bien quoi. Enfin, je sais pas, mais peut-être que c'est inconscient, mais c'est quand même parce qu'on peut quand même prévoir quand même que les femmes qui viennent avorter et celles qui vont accoucher soient pas dans la même salle d'attente quoi. Enfin, c'est pas compliqué à faire quoi.
Ouais. Bon, on poursuivra cette réflexion sur des questions de fond de vos films. Mmh. Là, on commençait par la forme, la fabrication, le temps de fabrication. On va faire une pause musicale, parce que ça fait une bonne demi-heure, plus même, qu'on a commencé. Caro, je te laisse présenter le morceau qu'on va écouter et nous dire pourquoi tu l'as choisi, parce que c'est aussi lié à ta fabrication de ton film.
Oui, alors ça s'appelle Quemando, qui veut dire en train de brûler. C'est un morceau de Iseo et Dodo Sound. En fait, c'est un morceau que j'avais prévu de mettre dans mon film vers la fin. Il y a une grande manifestation et donc cette chanson, en fait, elle parle de femmes qui se prennent par la main pour sortir dans la rue. Elle parle d'héritage par rapport à la lutte des mères. Elle parle du fait qu'on ne pourra plus nous faire taire parce que le feu de la lutte brûle, en gros. Et bon, après, j'ai pas pu le mettre parce que pour des questions de coût, ça nous coûtait trop cher. Et qu'en plus, j'ai reçu une bourse pour Yon Arrive qui m'a permis d'avoir une bourse de la SACEM pour faire la musique. Donc, j'avais une compositrice. Donc, du coup, on a fait travailler la compositrice pour cette musique de fin. C'est vrai que c'est dur de se défaire d'une musique qu'on a aimée et qu'on a posée sur le film, en fait. C'est un peu dur, mais le résultat final est pas mal. Mais du coup, voilà. Cette chanson est très belle, donc c'est bien si on peut l'écouter aussi ici.
Allez.
Agarraditas de la mano, vamos hoy. Agarraditas de la mano, vamos hoy. Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. Otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando, está quemando. Nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo. Nuestros corazones que están amaneciendo. Está quemando, ardiendo y lo están notando. No están pudiendo callarnos, iban cantando hoy por la calle, las mismas que por los años, por el camino de la pena, iban andando agarraditas de la mano. Vamos hoy, por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano. Vamos hoy, por lo que ellas nos enseñaron. Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. A la calle bajando. Está quemando, está quemando. Nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo. Nuestros corazones que están amaneciendo. Está pasando entre risas, gritos y llantos, entre las calles de los pueblos y de los barrios. Porque vivir no es vivir si nos cierran puertas. Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa. Está quemando sobre todo lo que arde. Se está encendiendo el fuego de nuestro cuerpo. Está borrando la risa de los cobardes. Agarraditas de la mano, vamos hoy. Por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano, vamos hoy. Por lo que ellas nos enseñaron.
enseñaron.
Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. Otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando. Que están amaneciendo.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans lieu, sans maître et sans publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet d'Adoc et on vient de faire une petite pause musicale que Caroline, la réalisatrice de Socoristas, nous a présentée. Et on va poursuivre encore un tout petit peu sur les questions de fabrication des films avec Caroline et avec Ali Maharouali et François Bernard pour leur film « Laissez-les avorter tranquille ». Donc Caroline, tu nous as dit que tu avais pensé à cette musique-là qu'on vient d'entendre de...
Iseo et Dodo Sound.
Et Dodo Sound. Pour ton film, que finalement, non, tu avais eu une aide de la SACEM, que tu avais eu une compositrice, une musicienne qui t'avait construit ta musique. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Pour toi, ce film avait de la musique. Dès le départ, tu pensais à une musique originale ou à une musique...
Oui, alors déjà, la compositrice s'appelle Déborah Bombard-Golicki, donc merci à elle. Oui, en fait, très vite, donc oui, moi, ça me paraissait logique d'avoir une musique. Et cette musique, en fait, je ne la trouvais pas dans ce qui existait, parce que, bon, j'aurais... Cette chanson-là, ça aurait pu marcher, et d'autres chansons un peu. Je voulais du punk féministe, en fait, en gros, parce que ça me paraissait correspondre exactement à l'esprit du groupe. Mais il fallait que ce soit une musique, évidemment, qui n'ait pas toujours des paroles, parce que le film est très bavard déjà. Donc, je pensais que ça devait être effectivement composé pour l'occasion avec ce style un peu. Voilà, rock, un peu militant, musical. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai demandé à Déborah. En l'occurrence, cette musique-là, on l'a remplacée au dernier moment. Cette musique qu'on vient d'entendre et qui était prévue, du coup, on l'a remplacée vraiment au dernier moment parce qu'on a eu la réponse au dernier moment sur le fait que ça allait nous coûter trop cher pour notre budget. Donc du coup, la compositrice a un peu improvisé avec la durée de la chanson, son style, donc un peu reggae, et donc elle m'envoie une version en yaourt. Elle me dit bon, maintenant il me faut des paroles. Et là je fais ah, j'ai pas de compositeur de paroles non plus, donc j'ai écrit en espagnol avec mon espagnol à moi, en faisant corriger par ma belle-sœur qui est espagnole. J'ai écrit des paroles et elle, qui ne parle pas espagnol, Déborah l'a chanté. Je lui dis non, attends, il faut que tu chantes ceci un peu plus comme ça, et voilà, ça a été enregistré.
C'est génial.
Voilà, c'est super,
on rigole.
Et rigole. Pour poursuivre sur l'histoire de la construction de ton film, disons de la narration, puisque c'est un terme qu'on a utilisé, nous, quand on en a discuté toutes les deux. À quel moment vient l'idée de cette narration-là? Et il y a quand même un moment où tu rencontres une monteuse aussi, Virginie Véricourt.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle t'amène à ce moment-là? Toi, tu arrives avec ce film, c'est quoi ton idée quand tu reviens avec tes rushs à Paris et que tu te lances dans... un montage et une finition de film.
La narration, en fait, dès le début, j'avais une question, c'est-à-dire que je voulais pas que ce soit un film sur le débat de 2018 en Argentine sur la légalisation de l'avortement. Donc, je voulais que ce soit un film sur la lutte des socoristas, sur leur accompagnement, sur leur réflexion, sur la liberté des femmes, sur leur corps, sur leur, la joie de leur lutte, leur engagement, voilà, plein de choses, dans le contexte de ce débat sur l'avortement. Mais je voulais aussi... En fait, le problème d'une narration avec un film comme ça, c'est que c'était pas évident. J'imagine que vous, vous avez eu le même questionnement. Finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire, comme on dit.
Mais c'était le sujet, c'était une histoire.
Voilà.
Avant, maintenant, et comment ça pourrait se passer, quoi. C'était,
dans votre film.
Dans notre film, il y avait ce parler du passé, de la lutte, de ceux qui sont encore vivants. Hein, les 343, il y en a quelques-unes... qui ont disparu, par exemple, mais il y a quand même une grande majorité qui sont assez en forme. Cette idée-là, et puis d'être de voilà, de commencer aujourd'hui dans une équipe, dans un hôpital public, etc. Ça, c'était les.
Mais tel que tu le décris, c'est pas en fait là, c'est pas là, il y a pas avant, pendant, après. La construction, alors, elle est différente.
Le après, si tu veux, c'est que il y a plusieurs moments à en parler, c'est relié à l'association Lancic.
Oui.
Et c'est eux l'après. Mm-hmm. C'est eux qui maintiennent, tu vois, la bataille, parce que la bataille, elle est continuelle depuis 75. Mm-hmm. C'est pas là, vraiment, le dernier avatar, c'est qu'il y a 76% des avortements qui se font avec des médicaments, comme tu l'évoquais tout à l'heure en Argentine, et que précisément en France, un certain nombre de gens se battent pour que les femmes aient le choix d'avorter comme elles veulent, mm-hmm. où elles veulent, quand elles veulent. Mm-hmm. Et donc, si tu veux, c'est ça le après. Mm-hmm. Le après, là, il y a la constitutionnalisation du droit de l'avortement, par exemple. Il y a tous ces aspects-là. Bon, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder cette question, mais avec Alima, on était, tu vois, sur la question aussi du film militant. Mm-hmm. Alors, c'est quoi un film militant? Ça veut dire... C'est une question qui était quand même très... Même si, voilà, en préparant l'émission, on disait, mais non, on ne va pas parler d'avortement, on va parler de cinéma. Oui, ok. C'est incontournable.
Le film est son sujet, et sa forme, et l'intention des réalisateurs.
Mais en fait, je crois que c'est déjà une différence, je pense, entre notre film et celui de Caroline. C'est que Caroline fait un film sur des militantes. Elle ne fait pas un film... Enfin, pour moi, ce n'est pas un film militant, au sens où nous on revendique... que notre film est un film qui... un film militant, c'est-à-dire un film qui...
Qui porte un message.
Bon, déjà, on fait un film aussi avec cette association Lancic, dont beaucoup de personnes qui sont dans le film sont à Lancic. Et donc, c'est ça aussi, c'est que toi, tu suis des militantes. Et en plus, par rapport à la forme, qui est quand même soumise à une... question de chronologie, toi, quand
c'est
même.
C'est ça.
Parce que tu as quand même l'histoire du Parlement,
exactement.
Du Sénat, et tout ça, tu es quand même obligé un peu à des moments donnés, même si j'imagine qu'il y a des scènes qui sont dans le film qui ont été tournées après, mais peu importe. En tous les cas, on est dans une chronologie, une histoire qui est en train de se faire sous nos yeux. Nous, on n'est pas dans une chronologie du tout, puisque on suit un service de Kremlin, mais ça aurait pu être à n'importe quel moment de l'année. Enfin, il n'y a pas une chronologie. Et du coup, ça donne à ton film c'est marrant parce que le film, il est dans un rythme. C'est très bizarre parce que nous, on est dans un film plutôt posé. Bon, on est à l'hôpital, dans des bureaux, on est chez les gens. Enfin, c'est très comme ça. Alors que toi, on a l'impression qu'il y a une espèce de mouvement perpétuel. Enfin, ça bouge tout le temps dans ton film.
Traverse même à l'orange.
Oui, ça bouge. C'est un film où ça bouge tout le temps. Ça danse, ça court dans les rues. Même quand elles sont dans leur réunion, dans leur bureau, ben elles sont assises par terre. Mais on a l'impression qu'à tout moment elles vont pouvoir se lever pour se mettre à danser. Enfin, il y a quelque chose de très et la musique rajoute aussi cette impression. C'est très joyeux en plus.
Ouais.
Enfin, sauf le moment où elles apprennent que... Bon, je ne raconte pas l'histoire, mais moi j'ai pleuré à ce moment-là. Mais voilà, il y a quand même une dramaturgie.
Oui.
Ouais, c'est ça, il y a une dramaturgie.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu essayes d'équilibrer quelque chose, des informations, de la contextualisation... De ce mouvement. Et en fait, ce qui t'intéresse, toi, et on le comprend très bien, c'est ces jeunes femmes, c'est leur énergie, c'est leur solidarité, c'est leur incroyable liberté, dynamisme, inventivité, et qu'elles nous communiquent, et ça fait du bien.
Et leur, et leur radicalité, ouais. Parce que quand même, ça, c'est quand même un truc. Quand même.
Radicalité sereine.
Oui, oui, bien sûr.
Et ancrée dans une réflexion. Mon père, il est féministe tranquille, disons, il m'a dit...
Il est féministe violent.
Disons qu'il n'est pas engagé spécialement, mais il me dit, ah, dis donc, elles réfléchissent drôlement. quand même, c'est pas parce qu'on milite qu'on n'a pas, au contraire, en général, il y a énormément de questionnements, et là, il y a une scène où effectivement, on les voit se dire ce qu'on propose aux femmes, est extrêmement ambitieux, en fait. On leur dit, c'est vous qui allez gérer votre avortement, on les met comme protagonistes. Et donc, enfin, il y a toute une réflexion autour de ça. Et je voulais effectivement aussi montrer ça. Effectivement, en fait, il y avait cette chronologie, et cette chronologie, elle était pratique parce qu'elle faisait, elle donnait effectivement cette narration. Mais je voulais pas rester enfermée dans. C'est pas un film sur le débat, et je voulais surtout arriver à ce que ce soit pas un film sur le débat. En même temps, ces scènes sont tellement fortes qu'évidemment, les deux scènes de vote, en fait, et les réactions des filles au vote sont centrales aussi dans le film, en fait. Il y a finalement, les deux s'équilibrent, ouais, un peu, cette narration de cette lutte collective à laquelle participent les socoristas. Et cette narration de la manière dont elles accompagnent, leur écoute des femmes, leur engagement, leur réflexion, ça fait un peu deux aspects qui se complètent.
Et puis le fait que tu aies gardé en off les débats aux deux assemblées, d'ailleurs, hein, on entend dans la première assemblée, je me souviens, une femme qui défend l'avortement. Et je trouve ça intéressant parce que on s'en fout de ces gens en tant que tel député, sénateur, mais c'est important de l'avoir mis parce que ça nous montre qu'est-ce qu'elles ont en face d'elles, quoi.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'elles ont en face d'elles comme patriarcat, l'Église, cette violence institutionnelle que les femmes doivent subir tout le temps. Et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça aussi. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, voilà, on fait un film sur les socoristas. On va pas mettre des offres de débat à l'Assemblée nationale. Surtout que la plupart du temps, c'est quand même pas très... c'est un peu chiant, enfin. Mais là, du coup, ça donne une espèce de relief, je trouve, au visage de ces femmes qu'on voit devant nous en train d'attendre comme ça, et puis de pleurer, rire, chanter. Enfin, il y a quand même tout ça. Moi, ça m'a beaucoup touchée, quoi. Ces moments de justement de débat.
En fait, j'avais pas, comme je voulais me concentrer sur les socoristas, pas faire un film sur le débat, je me suis dit, je vais pas aller filmer les opposants. Non, parce que sinon, ça aurait fait un film sur le débat, justement. Donc, bon. Mais heureusement, finalement, qu'il y a eu ces moments où on entendait les opposants, etc., pendant les discussions parlementaires. Et je restais fixée sur les socoristas, mais on entendait effectivement toutes ces oppositions, parce qu'effectivement, ça les fait exister. Et là, on comprend qu'elles se battent pas juste comme ça, qu'elles se battent effectivement contre un système, contre des oppositions très concrètes. Donc, effectivement, heureusement qu'il y avait ces moments-là.
Ce qui est commun entre les deux, dans les deux histoires, justement, c'est cette bonne humeur, cette pêche, si tu veux. Les manifs pour le droit à l'avortement dans les années 70, tu veux, c'est exactement le même ton.
Ouais.
C'était hyper joyeux. D'ailleurs, maintenant, des jeunes femmes ont fait un site là, qui s'appelle « On a avorté, et ça va bien ». Voilà, c'est-à-dire c'est aussi sortir de ce qui est précisément dans l'extrait que tu as pris dans l'équipe, qui est quand même une vraie question, parce que c'est aussi les questions de l'hôpital, etc. Voilà, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue, enfin, que ça... Mais en tous les cas, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait rajeunir nos films. Tu vois, je veux dire, c'est pas de vue là.
Mais, c'est vrai que le fait, nous dans notre film aussi, ce qui est, moi je trouve aussi important de dire, c'est que toutes ces personnes qu'on filme, elles ont effectivement beaucoup participé au combat dans les années 70 80, mais qu'aujourd'hui, ben, le combat il continue parce que, par exemple, la formation. Il n'y a pas de formation. Il y a toujours. Joëlle, elle dit, Brunerie, elle dit, quand j'ai fait médecine, il n'y avait rien sur la contraception. On ne nous parlait pas de contraception en tant qu'étudiant en médecine. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur l'avortement.
Alors, c'est un peu moins vrai. Là, en 10 ans, ça a progressé. Il y a des diplômes universitaires qui sont créés, ou des professionnels. Ouais, le film est passé.
C'est volontaire. C'est sur le volontariat, c'est pas obligatoire dans le cursus.
Les médecins sont obligés de se... Enfin, les professionnels de santé sont obligés de se faire former. Donc, si tu veux, tu passes des formations en permanence.
Non, mais c'est pas ça que je dis.
C'est que dans le cursus de... Enfin, moi, j'ai une nièce qui est étudiante en médecine. Maintenant, je lui ai posé la question question de l'avortement. Elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit. En 7 ans d'études, ils ont eu 2 heures, quoi. Très peu.
Mojelli a fait sa thèse sur ce sujet-là. Elle a étudié comment était enseigné l'avortement, la contraception, la naissance. Et c'est 15 heures à l'époque. Alors, il faudrait revoir parce que sa thèse est peut-être, tu vois. Mais c'est très très peu de temps.
Ça aussi, c'est intéressant aussi de l'entendre.
En fait, il y a cette énergie, ce côté joyeux. Et particulièrement dans ton film où il y a toute cette jeunesse qui est poussée et qui nous emmène, je reviens sur la construction, la narration, parce qu'en fait, il y a vraiment un équilibre absolument qui marche très très bien entre ces moments d'action, où elle se montre inventive et où elle se déguise, elle manifeste, elle tague, elle construise, ensemble. Et puis d'autres moments beaucoup plus intimistes, beaucoup plus posés, où elles sont au téléphone, où elles accueillent les femmes qui appellent et où elles les aident à trouver comment faire pour avorter. Et il y a des moments... que finalement, et donc dans ces scènes-là, tu es dans le bureau avec elle et tu les filmes en train de répondre au téléphone. D'ailleurs, enfin moi, elles m'époustouflent. Elles ont toutes, je ne sais pas comment elles se forment, mais elles ont une façon de parler hyper claire, tranquille, et toutes. Il n'y en a pas une qui ressort plus. Enfin, moi, j'ai trouvé que magnifique comme... comme formation pour elle aussi, j'imagine, pour parler, pour s'exprimer, pour se faire entendre des choses. Et puis, il y a d'autres moments où, par contre, on entend le son, donc c'est sous-titré dans le film, et toi, tu fais des images de cours, de murs, de villes, de... et ça, c'est les moments... que tu n'as pas filmé, en fait, tu n'as pas utilisé tes images.
Oui, effectivement. En fait, dans la pratique, donc, comment elles font ? Les femmes appellent, elles leur répondent. Donc ça, j'ai filmé, parce que c'était au téléphone, et de temps en temps, on entend un ou deux mots très, très bas, parce qu'on entend le téléphone, mais globalement, on les voit pas, on les entend pas. Mais après, en fait, elle donne un rendez-vous direct aux femmes pour que pendant une heure et demie, des socoristas dans un groupe, il y a 5-6 femmes, il y a 2-3 socoristas qui vont leur expliquer comment ça va se passer. Et ce moment-là, en fait, il y avait un questionnement sur comment je voulais évidemment y être présente, mais je me voyais pas arriver avec une caméra, les filles avaient jamais vu, il y avait pas eu de préparation, donc du coup je suis arrivée avec mon enregistreur sonore. Et l'enregistreur sonore, même ça, en fait, on en a débattu entre nous avec les socolistas, parce que il y en a une qui disait, en fait, les femmes sont dans un moment de détresse, elles ont besoin de nous, et leur imposer de les enregistrer, c'est pas correct. Donc, on va leur demander. Donc, en fait, à chaque début, quand je arrivais avec mon enregistreur, je les faisais voter à bulletin secret, en leur disant, s'il y en a une qui vote non, je m'en vais. Et donc, il y a plusieurs qui ont dit non, et il y en a un certain nombre qui ont dit oui. Mais bon, c'était pas toujours idéal, parce que j'étais avec mon Zoom. Si elles étaient 6, et les moments qu'on entend, en fait, c'est quand elles étaient moins nombreuses, parce que quand elles étaient 6, on était toujours en milieu c'était toujours à l'extérieur, et donc du coup le son était pas génial, et donc à ce moment-là, bah voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je mets à l'image, et donc c'est des images additionnelles qui ont été faites par des Argentins après, donc je leur ai demandé des cours d'immeubles, j'en avais fait quelques-unes, mais c'était des rushs beaucoup trop courts, donc je leur ai dit voilà, faites des images. Non, de...
ça aussi c'est un point commun qu'on a,
oui, exactement. Si tu veux,
c'est qu'il y a un certain nombre d'images qu'on peut pas avoir, alors nous on n'a pas fait exactement de la même façon, et quand on n'avait pas les images, bon, on les a inventées, c'est-à-dire que c'est aussi le paradoxe d'être dans un documentaire dans lequel il y a pas mal de fiction en fait. Puisqu'on voulait, on tenait à ce qu'il y ait des scènes de consultation, d'échanges avec des patientes, qui soient dans le film, justement pour cette idée, si tu veux, de connaître les trois méthodes, etc. Il y avait un message à faire passer. Donc on l'a fait avec des apprentis comédiennes ou comédiens. Qui sont,
alors, on y croit à fond.
Ils sont assez bons.
mais c'est vrai que moi, je sais que... alors François, lui, il disait tout le temps que c'était des fictions, et moi, je ne disais rien, parce que je trouve que ça marche tellement bien, oui, que ce n'est pas la peine de dire que c'est une fiction. Mais c'est des scènes de fiction.
Mais c'est de la fiction. Elle pose des questions.
Les comédiennes sont aussi des femmes.
Oui, mais elles posent des questions, parce que, enfin, je veux dire, elles s'interrogent...
Mais elles n'avaient pas de texte.
Ben c'est ça, il n'y avait pas de texte, donc ce n'est pas de la fiction.
Les médecins, c'est des vrais médecins.
Oui.
Il y a une scène, par exemple, avec Bérangère, qui est psychologue. Bérangère, elle reçoit une jeune fille mineure. Mais Bérangère, c'est une vraie psychologue de l'hôpital de Crémem-Blissette. Donc, elle pose des questions à cette jeune fille mineure comme si elle avait en face d'elle une vraie jeune fille mineure qui vient avorter. Mais la jeune fille mineure en question, c'est une apprentie comédienne théâtre du film, on peut le nommer.
Bien sûr, avec plaisir.
Et c'est vrai que ça marche super bien.
C'est l'inverse d'un autre film qui s'appelle Le Bureau des Anges, et où là, les professionnels sont des comédiens et des comédiennes.
C'est le film de Claire Simon.
Le film de Claire Simon.
Oui. C'est Le Bureau des Anges, je ne me rappelais plus.
Le Bureau de Dieu.
Le Bureau de Dieu, pas des anges.
Oui,
carrément
non,
Dieu.
Non, carrément, oui. Absolument.
Ah oui, aussi un film très intéressant.
Oui, qui est très, très intéressant, j'y pensais.
C'est vrai, François a raison. Là, c'est, elle fait un choix inverse, Simon. Elle prend des comédiens pour jouer les praticiens, qui sont, pareil, médecins, hein, et les patients... Les patientes, ce sont des vraies patientes. C'est vraiment pas des comédiens. Mais c'est quand même un film qui est tourné comme une fiction. C'est pas un documentaire qu'elle fait.
C'est
une fiction. Même si elle prend des vrais gens pour jouer les patients, c'est quand même une fiction.
Surtout que c'est pas des apprenties comédiennes, c'est des comédiennes connues.
Confirmées.
Et donc, forcément, le public ne peut pas s'y tromper. Quoi.
Non, dans ce cas-là, elles sont.
Mais c'est. Voilà.
Et donc, nous, dans notre film, c'est vrai qu'il y a. Au moins trois scènes comme ça, la fille mineure, la fille à la casquette, je sais pas. Et puis il y a eu ce choix aussi au début du film de la voix off aussi, c'est parce qu'en fait oui, là c'est une vraie patiente qui vient d'avorter et on pouvait pas la mettre à l'image, je crois qu'elle voulait pas.
Non, c'est compliqué parce que dans les histoires d'avortement, si tu veux, tu as été aussi confronté à ça, c'est-à-dire que avant les femmes sont trop préoccupées pour en parler, et après, elles ne veulent plus en parler, souvent. Donc, beaucoup de gens nous ont reproché dans des réunions, des débats, oui, mais on n'entend pas assez les femmes, mais les femmes, elles n'ont pas envie de causer. Voilà, elles ont avorté, et ça va, quoi, c'est bon.
En plus, on faisait pas, franchement, on ne faisait pas un film sur les femmes qui avortent, on faisait un film sur les avorteurs et les avorteuses. Donc, c'était la parole des avorteuses et des avorteurs qui nous intéressait. Mais il fallait... Et donc, il y a cette voix off au début qui explique comment elle a vécu ce qu'elle vient de vivre d'avortement. Voilà, ça introduit le film. Mais c'est vrai que d'entendre parler... moi, il y a une scène à chaque fois qui me bouleverse, c'est celle avec... comment il s'appelle comment il s'appelle le gars là qui dit que en fait
qu'il est pas pour en fait.
Il était pas pour, mais qu'en fait il a vu mourir une femme devant lui et que il faisait ses études. Il était interne
et
il dit j'ai vu une femme tomber devant moi à l'hôpital et ça a changé.
C'était trop tard.
Ça a changé sa vision quoi. Et moi ce mec à chaque fois que je sais plus comment il s'appelait, Raphaël quelque chose.
Richard.
Mais c'est le discours. On savait qu'il allait dire ça, c'est le discours de tous les médecins qui ont fait leurs études après la guerre, etc., qui ont rencontré l'avortement.
Ah oui.
C'est-à-dire tous les médecins qui ont été confrontés à l'avortement, c'est dans le sang et la mort. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait les militants.
Oui, mais c'est pas pour ça que...
C'est étonnant parce qu'on pourrait presque... Ça aurait presque pu être une fiction aussi, si tu veux. Mm-hmm. Parce que ce qu'il dit... Annie, l'ancienne présidente de l'ANSI qui est décédée, le dit aussi, enfin toute, comment elle s'appelle, tu en parlais tout à l'heure,
Joël
le dit aussi, enfin tu vois, ce truc-là était voilà, un truc effectivement, comme tu dis, émouvant. Quoi.
Ouais.
Ben, on pourrait peut-être écouter un extrait de Laissez-les avorter tranquille, justement, où Annie Bureau raconte... avant et après la méthode d'aspiration carbone.
D'ailleurs, c'est Annie Bureau qui a donné le titre au film.
Vous allez l'entendre.
Quand Joanne a rencontré Carman, et que Carman lui a montré que, au lieu de rentrer une curette à bord tranchant sur un col fermé, on pouvait dilater doucement le col avec des petites sondes en plastique et introduire une canule creuse, au lieu d'aller gratter l'utérus avec un instrument métallique tranchant, on allait simplement faire le vide en aspirant avec une seringue. Et c'est à cause du vide que le produit de conception allait passer dans la seringue, le danger n'était plus le même. Et le geste devenait quelque chose de tout à fait acceptable médicalement, s'il était bien fait. Ça s'apprend, c'est simple, mais ça s'apprend. Il faut le faire bien. Et quand on m'a montré pour la première fois l'aspiration, moi j'avais mis des sondes à mes copines. Alors, ou à moi. Alors, je disais, écoute, je te mets une sonde, tu n'as plus qu'à aller mettre un cierge à Saint-Rita pour que ça marche, parce que c'est pas sûr que ça marche. Le jour où j'ai fait une aspiration par la méthode Carman, la première, j'ai fait l'aspiration, c'était facile. J'ai dit à madame, vous n'êtes plus enceinte. Ça n'a rien à voir. Madame, vous n'êtes plus enceinte. Et ça, c'est un changement tellement total sur le plan médical que pour moi, ça y est, il fallait que l'avortement devienne libre. Sinon gratuit, rien n'est gratuit, j'ai toujours été contre gratuit. Mais libre, sur demande de la femme, puisqu'on pouvait lui procurer sans lui faire courir de danger. Et c'est là où je suis devenue une militante de l'avortement libre, sur demande. Le jour où j'ai su que l'aspiration existait. Mais si elles veulent avorter, mais laissons-les avorter tranquilles, puisqu'elles ne scannent pas leur santé, elles ne scannent pas leur fécondité. Les femmes qui avortent sont plus fécondes que les autres, elles ont plus d'enfants. C'est un peu normal, c'est pour ça qu'elles avortent. Les femmes syriennes n'avortent pas, les pauvres. Elles sont bien plus malheureuses que les femmes qui avortent encore. Et bien plus tristes. Parce qu'au moins... L'avortement, il y a quelque chose de... Pour moi, dans l'avortement, j'ai connu ça, c'était la mort, c'était l'horreur, c'était la complication. Mais en même temps, c'était la baise, c'était l'amour. On faisait l'amour, on avait une vie sexuelle. Et donc, à partir du moment où il y a de l'amour, il y a de la baise, il y a de la vie, il y a quelque chose qui se passe.
Nous revenons en studio de Radio Libertaire dans l'émission « On a déjà traité le sujet » d'Adoc. Et nous venons d'entendre un extrait du film « Laissez-les avorter tranquille ». Donc vous aurez entendu que le titre de ce film est tiré des paroles d'Annie Bureau. Moi, ce que j'ai retrouvé en entendant parler de la méthode Carman, bon, moi, je me suis fait avorter par cette méthode-là aussi, mais à l'époque, je n'avais pas vraiment creusé sur... j'avais vu comment ça se passait, évidemment. Ce n'était pas complètement indolore, comme on peut le dire quelquefois, mais bon. C'était quand même, effectivement, un mauvais moment, mais voilà, sans plus. Et ce qui m'a beaucoup intéressée là, à me repencher sur la question, c'est de voir quelle était la mentalité de Carman quand il a mis au point cette méthode. Son idée, et c'est ce qu'on retrouve chez les socoristas, et c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui ont milité au MLAC, c'est que ce n'était pas limité aux médecins. Ce n'était pas un acte médical. Que ça pouvait être pratiqué par des non-médecins. Et il y a eu le mouvement aux États-Unis de self-help, je crois, Je ne sais pas où elles en sont aujourd'hui.
Le bouquin a été réédité.
Le bouquin a été réédité, donc c'est toujours... voilà. Et c'est vrai que les Socoristas, bien sûr que oui, qu'on est là dans cette idée que, oui, prenons-nous, nous, en main, puisque... Enfin, voilà, il faut quand même une formation, mais là, on voit bien qu'elles sont tout à fait compétentes et capables de l'avoir. Et voilà, je trouve que ça, c'est un des messages qui est hyper important.
Ouais, ce qui est assez fou, c'est que l'histoire en France, c'est qu'en 77, donc deux ans après l'avortement, il y a eu un procès contre les militantes du MLAC qui avaient continué à faire des avortements autogérés. Alors, elles ont été...
Il y a eu des peines très minimes.
Mais il y a quand même eu un procès pour exercice illégal de la médecine. Et là... Deux ans après la légalisation en Argentine, procès contre des militantes argentines pour exercice illégal de la médecine. Donc, je trouve qu'il y a cette résistance, en fait, il y a cette volonté de contrôle, en fait, qui est toujours là.
Et aujourd'hui, la résistance, elle est contre les grands labos pharmaceutiques, parce qu'il y a un seul labo en France, qui produit les médicaments.
Qui produit la mifepristone.
Voilà. Et là, il y a eu un moment où il n'y en avait plus.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que, si tu veux, l'idée des trois méthodes, voire quatre même, c'est important, parce que la méthode Karman, il faut très peu de choses pour le faire et très peu de formation pour le faire. Donc, ça a été aussi une revendication de beaucoup de femmes, plus que de médecins, si tu veux, cette question. Dans le film Annie Colère, on voit bien le conflit entre les femmes et les médecins, et ça, c'est important.
Mais c'est encore une fois un moyen aussi d'avoir un contrôle sur le corps des femmes.
Bien sûr, complètement.
C'est de la part des pouvoirs, ça revient tout le temps. Quoi.
Et l'ANSIC, il milite pour le libre usage des médicaments, par exemple.
C'est un débat, je dis elle parce qu'il y a très peu d'hommes. Hein. Je suis le seul adhérent non médical et il y a quand même assez peu d'hommes qui ont la préoccupation de l'avortement, même si dans le film il y en a plusieurs, il y a des gens comme Joanet, etc., bon, qui ont eu cette préoccupation.
Puis aussi un vice-président.
Et donc, si tu veux, la question c'est d'arriver à maintenir le droit, c'est-à-dire qu'après tu vas retrouver des débats. Au niveau des personnels médicaux, tu vois, qui vont revendiquer des choses différentes. Par exemple, il y a eu une grosse bataille des sages-femmes pour avoir le droit de faire des avortements.
Oui.
Voilà, donc, il y a des contradictions dans le corps médical, si tu veux, de débats et de réflexions. L'ANSIC est une association dans laquelle on réfléchit beaucoup, on débat beaucoup, mais qui est assez compliqué, parce qu'en fait, c'est pas, il n'y a pas une foultitude de gens qui ont envie de faire des avortements. Ouais. C'est pas la carrière rêvée dans le milieu médical, quand même.
Bien sûr. Mais du coup, il y a des débats, en fait, sur ce sujet de est-ce que ça doit rester médical ou est-ce que ça peut être autogéré?
Avec les médicaments, de toute façon, tu te retrouves toute seule. Il y a plutôt une discussion sur est-ce qu'on peut laisser les femmes toutes seules, sans accompagnement. Souvent, ça se fait aux toilettes, discretos, avec les enfants qui hurlent. C'est le problème des médicaments, quand même.
C'est l'avantage des Socoristas, c'est qu'effectivement, elles ne laissent pas les femmes toutes seules.
C'est ça.
Mais ça demande un engagement de militante, d'une disponibilité, des appels au milieu de la nuit, parce que souvent, elles veulent déclencher le soir pour le faire pendant la nuit, pour retourner au travail le lendemain, ou juste se reposer le dimanche. Ça demande un engagement, quoi.
Oui, mais c'est vrai qu'entre la situation des Argentines et la situation française, c'est pas la même.
Oui,
nous,
mais
ici, c'est pas un travail de militant, c'est un travail de médecin.
Voilà. Mais en fait, il pourrait y avoir des militants qui s'engagent.
Non, parce que c'est illégal. Parce que c'est pas une pratique.
Au moment de l'accompagnement, si tu veux, ça pourrait être. Au moment de l'accompagnement.
Le mouvement français pour le planning familial.
Alors, le qui fait une ordonnance, mais sinon, bien sûr que si.
C'est le planning familial. On n'est plus dans le militantisme tel que le font les Socoristas.
Le planning familial, c'est des militants.
C'est une association d'éducation populaire. Il y a des
professionnels. C'est plus institutionnalisé que ça.
Il y a des salariés, mais il y a des adhérents, des militantes du planning familial.
Oui.
Je ne pense pas qu'elles vont se lever la nuit pour accompagner des femmes. Je ne crois pas qu'il y ait...
Pour l'instant, non.
Moment,
ça va peut-être venir.
On n'est plus dans ce combat-là, mais il y a un combat féministe qui a vraiment émergé. Et donc, peut-être que c'est aussi au détriment de ces formes-là d'action. En même temps, ça les remet quand même aussi en avant. En tout cas, il y a cette volonté, c'est vraiment cette lutte pour disposer de son corps, pour disposer de soi-même, qui n'est toujours pas gagnée, comme on le dit, mais qui touche. Alors, au-delà, moi, je suis absolument émue et ça me touche énormément, moi, en tant que femme. Cette lutte-là, je la porte viscéralement, évidemment, par rapport à mon corps et à ma sexualité. Mais je pense qu'effectivement, et c'est aussi ce qu'on comprend avec vos films, c'est qu'au-delà du problème des femmes, du droit des femmes, c'est le droit des hommes, c'est le droit des vivants, c'est le droit de disposer famille. De son corps. Il y a un autre débat dans lequel on est pas mal impliqué en ce moment, qui pose aussi la question de la place de la médecine, c'est le droit de mourir dans la dignité. De la même façon, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi les médecins qui n'ont pas envie de faire ça, parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas formés pour donner la mort, comme ils le disent, pourquoi c'est eux qui sont responsables? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le pratiquer d'une autre façon, encadré? Je ne dis pas évidemment à tout va, allez, on se procure le poison, mais non, c'est encore une fois, on ne peut pas soi-même... être vraiment libre de décider.
Mais par exemple, en France, on a quand même ce truc qui s'appelle la clause de conscience. Enfin, moi, je trouve ça quand même aberrant que, d'une part, la pratique de l'avortement soit réservée aux médecins, et que d'autre part, les médecins ont le droit de dire « non, moi, je ne fais pas d'avortement ». Enfin, moi, je trouve ça quand même... Aucun médecin ne peut dire « je ne vais pas soigner une grippe ». Par contre, il a le droit de dire « je ne fais pas d'avortement ». Enfin, moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Et dans ce cas-là, autorisons les sages-femmes à faire des avortements, elles le feront. Autorisons aussi des gens qui ne sont pas obligés... Enfin, sortons l'avortement de ce truc.
Cette mainmise.
C'est assez récent que ça soit médical, parce qu'en fait, les femmes abortent depuis 2 ou 3 millions.
Oui, c'est sûr.
Et que les médecins n'avaient rien à voir là-dedans.
Mais entre femmes. Tu vois bien qu'on parle aujourd'hui de ce qui se passe dans la médecine aujourd'hui.
Oui, non, mais t'as raison de le rappeler.
Accaparement, c'est un peu plus de 50 ans. Ou 60 ans, si tu veux, du pouvoir médical.
Voilà, et même, je ne sais pas, mais je pense que c'est une discussion qui traverse l'encycle, mais est-ce que dans l'encycle, cette question-là se pose? Parce que dans l'encycle, il n'y a pas que des gynécologues et des obstétriciens, il y a aussi des sages-femmes.
Des psychologues, des sages-femmes, oui, c'est ce qu'on disait au début.
Très peu.
Enfin, surtout, il y a... Et est-ce que là, c'est posé la question à un moment donné de dire on va militer pour que l'avortement puisse se pratiquer après, en dehors de nous, quoi.
La question du militantisme, c'est toujours sur quoi tu vas militer. Donc déjà, de militer pour avoir des lieux dignes pour qu'il y ait des avortements. Première chose. Parce qu'à l'occasion... parce que si tu veux, y a l'avortement, c'est dit dans le film par plusieurs personnes, c'est un moment dans la vie d'une femme. Est-ce que c'est au médecin de se préoccuper de contraception, de maternité, d'avortement, de sexualité, etc. Probablement pas que uniquement au médecin. C'est-à-dire qu'il faut amener d'autres personnes. Mais quand même, c'est pas, y a pas ce débat qu'il y a eu dans les années 70, qui est tout ce que tu disais, Anne, tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut se faire... tranquillement à la maison, et comme on militait pour dire que ça pouvait se faire comme ça, et ça a été un élément stratégique aussi pour dire que c'était pas dramatique, qu'il y avait pas de mort, qu'il y avait pas, etc. Bon, ça n'a pas été filmé à l'époque, mais si tu veux, les femmes qui partaient aux Pays-Bas pour un avortement, elles n'étaient pas très à l'aise au départ et elles revenaient en chantant. Ouais. Voilà, bon, est-ce qu'il ne faut pas, tu vois, des chants pour accompagner ça? C'est un peu le sens aussi du travail cinématographique et de la difficulté qu'on a à pouvoir montrer un certain type de film. Ça ne fait pas, même dans des festivals un peu militants, un film sur l'avortement, non.
Pour l'instant, il n'a pas été dans un seul festival.
Tu vois.
Il n'a pas été pris. Ouais. Alors, je ne sais pas, les festivals les plus exigeants d'auteurs, ils ont dû dire que ce n'est pas assez un film d'auteur. Les autres, Je sais pas exactement. En fait, ils répondent pas. Donc, enfin, ils donnent pas de raison. Donc, c'est difficile. On peut toujours imaginer ce qu'on veut.
Mais Créteil. À Créteil, que quand même.
À Créteil, non, ils ont refusé aussi.
Les femmes, même pas. C'est quand même fou. Mais voilà.
Ouais, ils en reçoivent beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même fou. Je suis d'accord. Voilà. Après, peut-être qu'il trouvera d'autres endroits. Mais et puis sinon, il va circuler. L'Antique, peut-être qu'il voudra bien le montrer, l'accompagner. On sait jamais. Avec le planning familial, on l'a déjà montré deux fois, donc voilà.
Justement, comme malheureusement on arrive à la fin de cette émission, on pourrait continuer la discussion longtemps. On avait des extraits qu'on n'a pas fait écouter. Bon, tant pis, une frustration comme d'habitude. Mais on finit en vous demandant où est-ce qu'on peut voir vos films, parce que j'imagine que les auditrices et auditeurs maintenant ont envie de les voir.
Alors, on continue dans le militantisme parce que le distributeur, le diffuseur du film, c'est le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir pour laisser Léa avorter tranquille. Alors, on pourrait faire une émission, peut-être sur le centre, on pourrait recommencer là sur le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Qui a un lien avec Delphine Seyrig aussi, puisque c'est elle qui a été la cofondatrice du centre.
Ouais, voilà, donc. Alors ça, c'est pour la partie en salle, etc.
Et DVD.
Et DVD. Par contre, il est disponible sur notre chaîne YouTube et on peut le voir à volonté.
C'est comme ça qu'on l'a trouvé.
Absolument. On a fait des scores de diffusion sur YouTube, beaucoup plus que dans tous les festivals, même les plus intéressants où on a pu aller. Alors après, est-ce que les gens l'ont vraiment regardé? On n'en sait rien, mais ça c'est toujours...
Ils ont commencé.
Voilà.
Alors pour Socoristas, pareil, en fait, on est distribué par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. On n'a pas encore notre petite page, mais ça va venir. Donc il va être disponible là-bas en DVD. Et puis surtout, ils nous font une projection au Forum des Images le 30 mai qui vient, à 20h30. Donc voilà, ça c'est un moment sympathique. Sinon, pour l'instant, on a fait quelques projections, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter pour le projeter. Moi, je peux me déplacer. S'il y a des salles intéressées ou des associations, ça peut tout à fait s'envisager. Je vais passer sans transition à l'agenda des événements qui vont venir dans les semaines qui viennent. Le vendredi 12 mai à 10h, Adoc propose sa deuxième rencontre Zoom dans le but de renforcer les liens entre les réalisateurs, les réalisatrices de documentaires et leurs partenaires professionnels. Ouverte et gratuite, elle portera sur le thème, cette fois-ci, un contrat juste entre auteurs, réalisateurs et producteurs. Est-il possible ? Samedi 13 mai à 11h au Lumineur Hôtel de Ville, 20 rue du Temple à Paris, aura lieu une nouvelle édition des Samedis d'Adoc avec la projection du film Cédric Kahn, L'échappé d'Alexandre Hilaire. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur. C'est le moment d'aller voir l'exposition Corps résistant de Rokhshad Nourdeh, notre collègue artiste et réalisatrice iranienne. C'est jusqu'au 10 mai aux ateliers Beaux-Arts de la aux ateliers Beaux-Arts de Glacière, 105 rue de la Glacière, dans le 13e à Paris. À noter aussi qu'Adoc a coédité plusieurs livres sur les pratiques des cinéastes documentaristes. Ils sont en vente dans notre librairie en ligne. Vous pouvez la retrouver sur le site www.adoc.net. Parmi les films dont nous avons parlé dans notre émission, vous pouvez en ce moment voir Ailleurs partout de Viviane Perrenmutter et Isabelle Ingold sur la plateforme VOD de Dérive, qui organise un focus sur la filmographie des deux réalisatrices et que vous pourrez trouver sur le site www.derive.be. Il y a aussi plusieurs projections de Droit dans les yeux de Marie-Francine Lejalu à Valence, à Bourg-de-Péage, à Laon et à Cucuron. Donc dans les cinémas de ces petites villes. Vous pouvez réécouter toutes les anciennes émissions en les recherchant sur notre site www.adoc.net. Et dernière petite chose, je projette le 3 juin le film Face à Face, donc un film que j'ai réalisé suite à des ateliers de slam et de danse autour du sujet des violences faites aux femmes. Ce sera à l'AERI, au 57-59 rue Étienne Marcel à Montreuil, à 15h30, dans le cadre d'une journée Ni una menos, c'est une expression en espagnol qui signifie pas une de moins, qui est en fait à la base d'un énorme mouvement de protestation, de lutte, de revendication contre les violences faites aux femmes et contre les grandes violences qui existent en Amérique latine. Avec de nombreux féminicides et vraiment ça dépend des pays, mais il y a des graves problèmes. Et donc voilà, cette projection est organisée avec l'association Alerta Feminista et toutes les informations seront sur la page Facebook de l'association, donc Alerta Feminista PE. Voilà, ça s'écrit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Nous vous quittons avec la chanson d'Anne Sylvestre, Non, tu n'as pas de nom, qui va vous permettre de quitter en douceur cette émission d'aujourd'hui, au mois prochain, premier dimanche du mois de juin. Et d'ici là, portez-vous bien.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non. Non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.